Bienvenue à tous et à toutes sur Radio B. Il est l'heure de Résonance. Résonance, une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, s'expérimente, s'explore, se crée, se réfléchit, se pense. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne, au microphone Alain Goudard. Explorer la nature, ses éléments, le cosmos, le végétal, le minéral, ses matériaux, ses sons, ses couleurs, la matière bleue infinie du ciel. Peindre, rendre visible ce que l'on voit en soi, c'est tenter de saisir, si cela est possible, le secret des choses. Fin de citation. Ces mots, ces propos, cette réflexion, c'est celle d'un homme, d'un ami, d'un artiste, d'un mari, d'un papa, Philippe Barbereau. Ceux-ci m'ont semblé entrer en correspondance, en miroir même, avec ceux d'un artiste, Pierre Soulages, lorsque celui-ci disait « J'aime aller vers, ou plutôt laisser venir ce qui en nous se trouve au plus enfoui, au plus secret. » Fin de citation. Au cours de cette émission, nous essaierons ensemble d'aller à la rencontre de cet artiste et à la découverte de l'œuvre importante qu'il nous a laissée. Nous essaierons d'approcher, d'esquisser ce qui nourrissait sa puissance créatrice et nous chercherons à nous frayer un passage vers la pensée qui animait également la démarche créatrice et le quotidien de Philippe Barbereau. Pour nous accompagner, nous guider dans cette rencontre, cette découverte, dans cette approche, différentes personnes, différents amis, différents proches sont présentes autour de ce micro et j'ai le plaisir de les accueillir dans notre émission. Donc merci d'avoir répondu à cette invitation et tout d'abord, bonjour Marie-Thérèse Ballet.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici.
Merci à vous de m'avoir invité.
Régis Blondel, bonjour.
Bonjour.
Autre ami fidèle, j'évoquais de proche de Philippe Barbereau, mais voilà, vous l'avez, c'est une rencontre qui existe depuis de nombreuses années.
Voilà, on pourra développer ça tout à l'heure, je crois.
Tout à l'heure, hein, avec plaisir. Et puis enfin, Bernard Nolas.
Oui, bonjour. Eh bien, merci de nous avoir sollicité, invité. Et voilà, donc je suis un ami de Philippe de longue date.
Voilà, donc vous voyez, chers auditeurs, des amis de longue date pour parler d'un artiste, d'un homme aussi. Et j'avoue que je suis particulièrement heureux de vous accueillir les unes et les uns et les autres dans cette émission. D'une part parce que il me semble effectivement important de soutenir toutes les démarches qui permettront de faire découvrir à un public élargi l'œuvre et la pratique artistique que conduisait Philippe Barbereau. Et puis d'autre part, c'est une manière à travers cette émission de dire à un ami combien il a marqué profondément par sa présence, son écoute et l'attention qu'il portait à l'autre chacun de ceux et celles qui à un moment donné ont croisé sa route, cheminé à ses côtés, partagé des aventures humaines et artistiques. Enfin, c'est contribuer à faire connaître une pensée, à partager une pensée riche, intense, précieuse, profonde, qui nous permet aujourd'hui de voir apparaître au fur et à mesure que l'on pénètre celle-ci des facettes insoupçonnées de l'homme, de l'artiste et d'une pensée en mouvement. Alors, au mois de décembre prochain, du 4 au jeudi 16 septembre à H2M, et nous sommes en décembre, situé donc H2M pour ceux et celles, alors les Burgiens le connaissent peut-être beaucoup, d'autres peut-être plus ou moins, mais rue Ténière à Bourg-en-Bresse, il va se dérouler une exposition qui va nous permettre justement d'aller un petit peu plus loin, d'aller à la rencontre de l'œuvre de Philippe Barbereau. C'est vrai que son œuvre ne laisse personne indifférent, et sa femme, Brigitte, et ainsi qu'un groupe d'amis, ont souhaité justement permettre à tout un chacun de découvrir un peu ce travail en réunissant et en imaginant une exposition qui s'intitule « Entrevoir l'intérieur ». Alors peut-être on va cheminer comme ça. Vous êtes les uns et les autres, Régis Blondel, Bernard Nolas, Marie-Thérèse Ballet, des amis proches, et vous avez constitué un petit peu ce groupe, en tout cas ça a cristallisé l'envie justement, peut-être de rassembler, de reconstituer cette œuvre. Peut-être Régis Blondel, qu'est-ce qui a donné cette envie de vouloir justement travailler à ce rassemblement de ces œuvres, et puis peut-être aussi à les montrer, à les faire découvrir?
Je crois qu'au départ, tout s'est passé très progressivement.
Oui.
Ça n'a pas été immédiat de regrouper tout le monde. Et puis, les choses se sont faites au fur et à mesure. Et puis, tout le monde, nous nous connaissions tous, plus ou moins. Et ça, je pense que la force des liens que nous avions avec Philippe,
oui,
s'est transmise et accrue encore en se regroupant d'une manière très régulière. Et tout s'est passé avec confiance, complicité,
oui,
et calme.
Intéressant. Hein, du coup, Marie-Thérèse Ballet, c'est vrai que cette démarche artistique que Philippe Barbereau a développée tout au long de ses années, il travaillait, puisqu'il il a professionnellement beaucoup, très investi hein, dans son cheminement professionnel, mais néanmoins, il y avait ces fenêtres, alors je ne sais pas comment on pourrait les appeler, d'évasion, d'ouverture vers d'autres choses, ou peut-être aussi des éléments qui pouvaient peut-être croiser aussi sa carrière professionnelle et qui lui donnaient aussi des envies de naviguer à partir de celle-ci. Et voilà, donc du coup, c'est quand même un certain travail et puis une grande capacité d'œuvre multiple qu'il nous a réservé et qu'on va pouvoir découvrir, donc les rassembler.
Tout à fait, c'est un beau travail de rassemblement de toute une œuvre.
C'est ça.
En tout cas, c'est vrai qu'il faut souligner, je ne sais pas si c'est exact de dire les choses comme ça, mais l'homme multiple,
c'est
parce qu'en dehors d'une vie professionnelle très intense, Philippe montre à travers cette œuvre une capacité de travail phénoménale, ouais, également sur le plan de la créativité. C'est-à-dire que professionnellement, c'était bien évidemment énorme, mais dans le cadre de son activité de création, c'est non moins énorme. Et ça, c'est impressionnant. Et je pense aussi qu'il avait une certaine capacité d'ouverture et d'accueil de l'autre avec une grande modestie et que, comment dire, quand on découvre la totalité, bah, c'est impressionnant.
On sent aussi tout à l'heure dans les propos de Régis Blondel, est-ce que vous venez de dire aussi cette capacité qu'avait Philippe Barbereau de mettre en lien, de tisser ses liens et des liens forts justement. Ce qu'il en est, bien sûr, Bernard Nolas, pour vous. Et justement, j'imagine que ça devait être aussi une autre manière de revisiter ce parcours de nombreuses années en replongeant dans l'ensemble de ses œuvres.
Oui, et puis par rapport à ce que viennent de dire Régis et Marie-Thérèse, moi, ça me paraissait indispensable de donner à voir le travail de Philippe. Ce qu'on est un certain nombre à bien le connaître, à connaître ce qu'il faisait, mais il fallait le montrer aux, oui, gens. Et donc, du coup, le choix a été fait de réaliser un livre, un ouvrage.
Oui, il y a deux temps. Hein, il va y avoir ce moment d'exposition dont on va pouvoir parler un petit peu plus à fond, mais aussi il y a un livre.
Voilà, le petit groupe d'amis, de proches, donc on a mis en œuvre le chantier de ce livre qui retrace, qui, j'espère, montre bien les divers aspects de son travail et de sa démarche. Et puis l'exposition, comme Alain, tu viens de le signaler, de le dire.
Alors, il y a une grande quantité d'œuvres. Hein, c'est ce que vous soulevez les uns et les autres. Et puis je voulais juste, ça ne dit pas tout, mais déjà ça laisse les perspectives aussi de pistes qu'il devait inventorier, explorer. Et il disait ceci, je produis des peintures, des assemblages animés ou immobiles, des dessins par surprise. Je trouve ça plutôt déjà hyper intéressant dans sa formulation, et puis ça montre cette diversité, et en tout cas aussi ce dynamisme intérieur aussi qui le guidait, quoi.
Alors, c'est sûr que, un peu comme Marie-Thérèse l'a signalé sur le débordement de créativité de Philippe dans le travail, mais je pense que dans son travail de peintre, il y a cet aspect-là aussi qui ressort, quoi.
C'est ça.
Que, du coup, les supports sont multiples et, que ce soit de la peinture, du dessin, du collage, de l'assemblage, des mécanismes, c'est pas que ça part dans tous les sens.
Non.
Parce qu'il y a, il y a une cohérence, c'est mais, voilà. Mais ça correspond au tempérament de Philippe, je trouve.
Oui, voilà, ça lui colle, si je peux mettre ce terme vraiment.
Oui, collage. Ça lui colle bien.
Régis Blondel, justement, voilà, devant cette diversité, parce que sans parler qu'il y a des tas, parce que je crois que en réalité tous ces. Est-ce que vous qui avez justement pris le temps un petit peu plus de replonger dans l'ensemble de cette œuvre et peut-être, je ne sais pas si on peut parler de chronologie, est-ce que toute cette diversité était-elle présente dès le départ, ou est-ce que des choses se sont, je pense à l'idée des boîtes, à d'autres mécanismes, c'est des pans différents qui se sont fait jour au fur et à mesure de la démarche?
En fait, je crois qu'on a découvert au fur et à mesure, dans cette œuvre protéiforme et qui paraît un peu éclatée, on a essayé de trouver le noyau. Le noyau, l'essentiel de cette œuvre.
Ouais.
Et au début, c'était d'une grande complexité. Ça partait vraiment un petit peu dans tous les sens. Il y avait des choses très spontanées, il y avait des choses très complexes, des matériaux très différents. Et au fur et à mesure, on est parti, je crois, de 1400 œuvres,
oui,
de petits dessins à des choses beaucoup plus abouties. Et puis, petit à petit, les choses se sont épurées. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des grandes tendances.
Ouais.
Des grandes tendances qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, qui correspondent un peu au chapitre du livre. Et puis, au fur et à mesure, l'œuvre, on a trouvé un petit peu l'essence, on a trouvé un petit peu ce qui définissait Philippe, hein, bien que ce soit indéfinissable, peut-être. Hein.
Mais, une manière de pouvoir en parler.
Voilà. Ça nous a fait beaucoup de bien. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Philippe étant quelqu'un de complexe dans sa vie intérieure, dans son monde extérieur, dans le côté de la vie civile. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un noyau qui était très, très profond et qui était très solide, je crois. Ce qui n'empêchait pas, et ce noyau, il était extrêmement riche parce que le doute se mêlait à l'ouverture. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a quelques petites phrases qui sont assez... dans la préface, on parle de comment concilier pour Philippe l'infini du cosmos et le petit clou rouillé.
C'est ça.
Voilà,
c'est
donc c'est complexe d'habiter dans cette pensée. Hein. Et, mais lui, par contre, il n'en éludait aucune partie. Mm. Et il voulait vraiment découvrir aussi bien le plus profond que le plus léger, peut-être le plus superficiel.
Vos propos me font penser à ceux aussi de quelqu'un de très proche de Philippe Barbereau, Gérard Rotelin. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Et Gérard Rotelin écrit ceci, « Les créations de Philippe ne sont pas faites à partir de rien, mais à partir de petits riens. » Quand Philippe prenait un fil de fer, une pierre, un éclat de bois et les mariait ensemble contre nature, on redécouvrait chacun de ces riens comme transfigurés. Vous voulez réagir là-dessus, Bernard Nolas ?
Peut-être. En tous les cas, alors, ce qu'il y a, c'est que dans le travail de Philippe, comme on l'a déjà dit, il y a des aspects très différents. Et dans ce que vient d'écrire Gérard, personnellement, je ne sais pas, on va faire ça avec beaucoup de simplicité. Régis et Marie-Thérèse, vous rebondirez. Moi, ça me fait penser à plutôt ce qui est fait à partir, tout ce qui est assemblage, mécanisme, à partir d'objets glanés.
C'est
voilà, bon, d'objets glanés. Et ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que c'est vrai que ces objets glanés, ils sont collectés dans un monde extérieur, mais ils se mettent en écho avec la vibration, le monde intérieur de Philippe. Alors ça paraît peut-être d'une grande banalité, mais je sais pas, il y a une force, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a l'aspect au niveau du sens, de la profondeur, et puis après, il y a aussi tout simplement l'aspect formel, technique, quoi, j'ai envie de dire, visuel, quoi, on va dire visuel. Et ce qui est compliqué, c'est que il faut que... C'est pas une simple accumulation d'objets, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une cohérence. Pour que ça fonctionne, voilà, il faut. C'est pas une simple organisation matérielle des choses, quoi. Voilà.
C'est ça. il faut bien qu'il y ait une pensée qui soit là, qu'il y ait un geste qui fasse que, et que du coup, il y a une, je dirais, il nous ouvre une autre manière de regarder, et en même temps, ce que l'on regarde est en train de nous transmettre autre chose aussi, de son message intérieur. Marie-Thérèse Ballet.
J'ai été surprise parfois de la démarche d'essayer de juxtaposer des choses très éloignées. Et comment dire, dans des activités communes que l'on a pu avoir, parfois il y avait des objets entassés, pas forcément triés, comme un espèce de réservoir.
C'est ça.
Et en fait, comment dire, Philippe encourageait à aller chercher les objets qui avaient peut-être le moins de choses à se dire entre elles. Entre eux, pardon, les objets. Et en fait, c'était de là, peut-être, qu'il y avait le plus de surprises et c'est le ça. Plus de... comment dire, il parlait effectivement que de surprises, ça me renvoie effectivement à ça. En fait, l'inattendu venait de cette...
L'imprévisible.
De cette chose qui paraissait absolument pas logique. Absolument pas prévisible. Voilà, tout à fait.
Ça, c'est intéressant. Oui, Bernard Nolas, vous voulez réagir.
Et par rapport à ce que vient de dire Marie-Thérèse, il y a une jolie phrase de Philippe.
Oui.
Donc, citation de Philippe. Les objets parlent et nous disent ce que nous ne savons pas encore de nous-mêmes.
Voilà, et là, ça touche effectivement toute la force que c'est que de pas simplement ramasser l'objet, mais du coup, que va-t-il être au service de quelle pensée ?
Qu'est-ce
qui va jaillir de cette juxtaposition, de cette rencontre ? Comment ça va nous parler aussi, Régis Blondel ?
Oui, c'est une découverte inattendue de lui-même.
Ouais.
Je crois que tout est là. Je pense que Philippe étant très lucide dans la vie quotidienne au niveau professionnel, à tous les niveaux, c'est quelqu'un qui se contrôle, qui contrôlait des gens. Et là, c'était peut-être pour lui une grande récréation, le mot est peut-être pas tout à fait exact, mais un grand peut-être soulagement, un grand refuge, un grand moment où il n'avait plus à contrôler ni lui-même, ni sa production. Et à ce moment-là, jaillissaient des choses qu'il ignorait de lui-même et qu'il révélait aux autres et à lui-même. La, 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 la.
Résonance sur Radio B Entrevoir l'intérieur, cheminement avec Philippe Barbereau, exposition hommage. Alors nous sommes toujours entourés de Régis Blondel, Marie-Thérèse Ballet et Bernard Nolas, des amis très proches, pour évoquer justement la démarche artistique, l'exigence aussi artistique qui présidait justement dans tout le travail développé par Philippe Barbereau. Et on tenait à aller aussi encore dans ce sens-là, Bernard Nolas, on évoquait tout à l'heure le fait que Philippe Barbereau réagissait à ce qu'il voyait, des petits riens, des petites choses, mais que tout cela résultait non pas simplement du hasard des choses, mais bien un cheminement d'une pensée, une manière de vouloir travailler les choses.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on parlait surtout du travail fait à partir d'objets accumulés, glanés, il y a peut-être un lien qu'on peut établir avec la peinture, c'est-à-dire que évidemment, dans ce qu'il faisait, dans ses créations, évidemment qu'il y a une part de liberté, de on ne sait pas trop où on va quand on est en démarche de création. Tout n'est pas pensé, contrôlé, hein, c'est ce qu'on se disait. Mais en même temps, il ne faudrait pas croire que la part du hasard, que le hasard contrôle tout, c'est pas ça non plus.
C'est
quoi.
Ça, c'est
alors
ça.
Cet équilibre, il est difficile.
Il est subtil. Hein.
Il est subtil. Il est difficile pour nous à y mettre des mots, et certainement que Philippe, comme tout créateur, il était bousculé par tout ça.
Certainement. Hein.
Mais moi, je voudrais pas qu'on croie que c'est voilà que c'est le hasard qui gouverne. C'est pas ça du tout.
Non. Oui. Non, mais je crois que c'est important aussi de pas ramener justement peut-être l'élan de création, le moment de création à des choses qui sont totalement futiles ou non pensées ou uniquement dues au hasard. Il y a des rencontres, il y a des choses qui nous bousculent, il y a des choses qui viennent nous interpeller et tout ça met en mouvement, met en branle bien sûr l'esprit, le geste aussi, puis va donner naissance. Donc c'est un mûrissement aussi qui est là, beaucoup de choses s'y mêlent, mais pas que le hasard.
Oui, effectivement, pour qu'une œuvre soit réceptive d'une manière fine et ciblée, il faut qu'elle soit cohérente, il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens. Si on a 15 informations dans une œuvre, on ne sait plus où elle est. Et je pense qu'il faut une exigence d'équilibre plastique, d'équilibre technique, et il y était... Il avait une spontanéité quelquefois, mais très souvent c'était mûrement réfléchi, on en parlait ensemble, il nous posait la question. Là on parle un peu de choses essentielles, existentielles, mais quelquefois son problème c'était parce qu'il y avait trop de bleu en bas. Et ce bleu en bas, ça n'allait pas parce que ça amenait trop de souplesse, ça amenait une lourdeur, ça amenait quelque chose. Hein. Je crois que au bout d'un moment, au départ peut-être... Techniquement, on peint avec des formes, on peint avec des couleurs. Oui. Puis très vite, on peint avec des sentiments. Et très vite, on peint avec des émotions. Oui. Et voilà, c'est là où Philippe, je pense, traduisait très facilement le bleu, non plus en bleu ou en vert, mais traduisait ça en quelque chose de plus spirituel, en quelque chose de plus léger, de quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a une exigence de cohérence plastique dans son œuvre. Voilà.
Et les couleurs sont importantes aussi, je pense. Ces rapports aux couleurs, justement. Est-ce que là, alors sans dire que toutes les œuvres tournent autour des bleus, mais vous pouvez souligner des bleus, mais il y a des couleurs qui sont très présentes.
Oui, alors bon, ça c'est un constat.
C'est un constat, voilà.
C'est un constat, c'est sûr, mais peut-être comme tout un chacun, dans sa palette, ce qui définit... Enfin, ce qui peut définir en termes de couleurs le travail de Philippe, oui, c'est sûr que bleu, on peut dire bleu.
On peut dire bleu.
On peut dire bleu, mais on peut dire noir.
Oui.
Et
oui.
On peut dire or.
Or.
Voilà.
Oui.
Voilà. Ça, c'est sûr que c'est les couleurs qui reviennent, c'est certain. Après, par rapport à...
Est-ce que la peinture, finalement, c'était l'entrée pour lui, ou est-ce que c'est-à-dire ce rapport aux couleurs, ce rapport à...
Alors,
que c'était une de ses entrées
Alors, je ne sais pas, Alain, ce que je veux dire par entrée. Alors, on va. Voilà, je veux dire comment je l'entends moi. C'est sûr, et Brigitte peut le confirmer, que Philippe, quand il avait 17-18 ans, c'est par le dessin, par la peinture, qu'il est rentré dans cet univers. Tout ce qui est collage, tout ce qui est assemblage, c'est venu plus tardivement.
Plus tardivement.
Donc on va dire, c'est là aussi, on est dans les constats.
Hein, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
Philippe, les débuts, c'est dessin-peinture.
C'est dessin-peinture.
Voilà, voilà, c'est dessin-peinture.
C'est ce que je voulais dire par entrée, effectivement.
Voilà. Après, par rapport à ce que vient de dire Régis, qui parlait de peindre, c'est utiliser des couleurs, des matériaux, et pour celui qui regarde, ça engendre de l'émotion. Alors là, c'est très subjectif, mais moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Philippe, c'est qu'il y a des choses qui sont assez figuratives, assez réalistes. On a pas, voilà, ce qui est donné à voir est lisible. Et après, il y a tout un tas de réalisations qui sont très abstraites. Non figurative. Et là, alors là, je voilà, chacun peut y rentrer à sa manière, mais moi, j'ai pas besoin de je cherche pas à me raconter une histoire.
Oui.
Voilà. Je peux rester longtemps à regarder, et c'est plus l'émotion qui envahit par moments, et puis à d'autres. Pas, parce qu'il ne faut pas avoir une vision angélique des choses, quoi, certes fois ça parle ou certaines fois ça ne parle pas.
Hein, oui, voilà, bien sûr. Bon.
Mais je ne crois pas qu'on ait besoin de chercher à... Et c'est justement, moi, c'est ça qui me fascine. Mmh. C'est qu'il n'y a pas... On n'est pas dans une narration.
C'est ça. Oui, complètement. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Régis Blondel ou Marie-Thérèse Ballet, par rapport à cette idée de la narration.
Je n'ai pas la même connaissance de l'œuvre peinte de Philippe, mais en tout cas, on est, pour moi, peut-être pas dans la narration, mais dans la perception, dans la sensation.
C'est ça. Oui. Régis Blondel.
Je crois qu'il y a les deux ou trois lectures possibles dans son travail, selon selon sa sensibilité, selon sa culture, mais ça permet d'avoir une spontanéité, voire simplement des belles couleurs ensemble, point final, ou bien gratter un peu plus loin si on connaît mieux l'œuvre, si on connaît mieux la peinture en règle générale, peut-être.
Et en même temps, on commence à rentrer un petit peu plus en profondeur dans sa démarche artistique, et en même temps, il la nourrissait, il allait voir de nombreuses expositions, il s'intéressait à beaucoup de choses. Il y avait une ouverture aussi très large, très importante de sa part vis-à-vis de différents courants artistiques.
Oui, s'intéressait à toute forme de peinture, hein, des plus, je dirais, des plus ludiques, même des plus amusantes, plus humoristiques.
Oui, l'humour était bien présent aussi.
Hein, oui, c'est ça, jusqu'aux choses les plus graves. Hein, il était ouvert absolument à tout. Ouais. Hein, et justement, c'est cette immense ouverture qu'il avait sur la peinture qui contrebalançait ce grand doute qu'il avait avec tout, peut-être, ou avec lui-même, ou avec ça. Et c'est ça qui permet de sortir des choses qui sont... assez étonnante. C'est il acceptait le grand écart, capable dans les couleurs, on parlait de couleurs, capable de couleurs très très noires, très sombres, très denses, très lourdes.
Affirmer cette position,
et puis dit, cet axe revient dans toute son œuvre, différents niveaux. Et c'est peut-être justement ça qui lui permettait d'aller vers des zones beaucoup plus épurées, beaucoup plus aériennes, beaucoup plus légères, peut-être en étant lucide sur le contraste de toutes ces couleurs, quoi.
Alors, Bernard Nolas, oui, vous voulez réagir.
Et du coup, je prends la suite de Régis, et du coup, ce grand écart, donc on l'a déjà dit, on le retrouve dans les techniques, mais on le retrouve aussi dans les sujets abordés, quoi, parce qu'il avait cette capacité à aborder des choses profondes, graves, sombres, mais ça pouvait aussi être ludique et léger parce qu'on en a besoin, et puis du coup c'est sûr que le équilibre et déséquilibre sont c'est ténu, quoi.
Et c'est aussi ce que je trouve qui est important, effectivement, et c'est là où le livre dont on évoquait tout à l'heure va être précieux, c'est qu'il révèle aussi cette pensée en mouvement qui est là qu'il habitait, et quelquefois, effectivement, de manière ludique, mais aussi des propos très profonds par rapport à sa démarche, par rapport à ce qui lui semblait aussi en œuvre, ce qui le mettait en branle personnellement.
Oui, après, moi, il y a quelque chose que j'ai très souvent dit à Brigitte, à Régis et aux autres. C'est peut-être l'histoire qui me fait dire ça. Ce qui m'impressionne et ce qui me marque chez Philippe, moi, c'est je dis souvent ce mot, la nécessité. Il ne pouvait pas s'en passer. C'est pas, on n'est pas dans, comment dire, on n'est pas à la mode, on n'est pas dans, dans le charme. Il ne peut pas faire autrement.
Voilà, c'est ça.
Voilà, il ne peut pas faire autrement, Philippe, que de... Il ne peut pas s'en passer, c'est ça, que de... peindre, que de dessiner, ou pendant un repas entre copains, que le coup du trombone ou du papier de papillote, etc., qui se transforme en petit bonhomme, ou le, sur les sentiers, pendant les promenades, les deux morceaux de bois qui se trouvent attachés par une brindille, etc. Et du coup, vu que c'est une nécessité, c'est vrai, c'est authentique. Il n'y a pas de, il n'y a pas de charme. Enfin, je sais pas.
Il n'y a pas une espèce de séduction pour qu'il y a la démarche qui est là, qui est vitale, entre guillemets, qui est essentielle pour l'homme.
Je ne peux pas s'en passer. Faire autrement.
Après, elle nous parle pas, mais en tout cas,
toi, c'est autre
chose. Je pense que c'est aussi ça, le fait qu'elle touche aussi, qu'elle nous interpelle, c'est que justement, elle ne triche pas. C'est qu'on a, on a vraiment quelqu'un qui, au travers de sa production, quelle qu'elle soit, et dans ses différentes facettes, dit ce qu'il est, dit ce qu'il a à dire, et c'est essentiel à dire même.
Avec beaucoup de simplicité et de modestie, parce qu'en fait, il pourrait y avoir le même personnage qui réagit en permanence sur des tas de choses, mais où la sensation serait différente si la, la psychologie était différente. Et Philippe, je trouve le personnage était très modeste, malgré une accumulation à l'intérieur de lui de tas d'expériences, de tas de vécu. Et à la fois, il se présentait d'une façon très abordable et très accueillante. Et en fait, la simplicité ou l'authenticité, je la ressens à travers cela aussi.
Et je pense que si on sent véritablement une démarche forte qui est vraiment sur une vérité personnelle, elle nous touche forcément. Et il n'y avait pas de fioriture, quoi. Mais c'était vraiment l'homme aussi. Parler de lui sous ces termes, c'est aussi, quand on le côtoyait, de le rencontrer de la même manière, avec la même simplicité.
Et du coup, dans le travail qu'on a fait, la petite équipée, là...
Vous avez cherché à mettre en valeur cet angle-là aussi?
Non, pas spécialement. Ça s'est dégagé. Ouais. C'est que, comme m'a dit Marie-Thérèse, elle a, avec beaucoup d'honnêteté, ce qui était vraiment agréable. Chez Philippe, c'est, par rapport à son travail d'artiste, hein, de peintre, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'il pour faire simple, je sais pas comment dire ça, il savait très bien dans quel cours il jouait, quoi. Il faisait ça avec passion, mais sans se prendre au sérieux. Mmh. Alors après, du coup, pour nous, moi, je croyais que je connaissais le travail de Philippe, et en fait, j'ai découvert beaucoup de choses. Et et il me semble qu'il y a quelque chose qui est important à signaler, c'est que même je dis souvent ça à Brigitte un peu pour sourire, même si Philippe, c'est évident, c'est ni Van Gogh ni Basquiat, et il le savait très bien, et puis on le voit nous
très
aussi.
Lucide bon. Par rapport à ça,
mais il y a une force qui se dégage de son travail, qui fait que c'est digne d'un intérêt, et que ça va plus loin que, aidez-moi, que le pain du dimanche, ou je sais pas comment dire.
C'est qu'on a quand même quelqu'un qui s'inscrit dans une véritable démarche.
Il y a quelque chose de plus qui fait que c'est... Voilà.
Il peignait pas pour plaire, c'est
voilà, ça. C'est ça. Voilà, je pense
son travail n'aurait été montré nulle part pour personne. Il aurait continué à peindre dans son coin.
Exactement.
C'était un besoin, comme certains vont courir ou lire, par exemple. On n'en parle pas toujours.
Bien sûr.
Voilà, là, on a la chance d'avoir une trace de ce qui se passait à l'intérieur de lui. C'est surtout ça qui
est. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que le groupe que vous constituez, tout ce travail, justement, de rassemblement, d'approfondissement aussi, voire de découverte aussi de certaines facettes, donne peut-être un petit peu plus, tout en gardant cette simplicité, mais quand même l'importance de donner une présence à cette démarche-là, et de pouvoir quand même faire qu'elle rencontre un public, que d'autres aussi rencontrent la force qui se dégage aussi de cette œuvre, tout en gardant cette simplicité, mais qu'elle est belle à voir sous ces différentes formes, à comment elle s'exprime justement, cette simplicité, cette manière de dire aussi.
Je crois que c'est ce qui a permis de cette complicité qu'on avait avec lui, chacun d'une manière différente,
hein,
familiale, amicale, etc. Mmh. Ça a permis au groupe de... Ça s'est traduit dans le groupe et ça a donné tout de suite une unité et la différence de chacun. Chacun a gardé son autonomie, sa différence c'est réellement, sans plier aux autres. Tout s'est passé et c'était une construction collective. Quoi.
Mais c'est ça. Vous vouliez réagir, Bernard Nolas ?
Non, mais juste une petite information par rapport à notre méthode. C'est vrai qu'on a tout simplement, de façon un peu basique, on a commencé par se dire qu'il fallait faire... l'inventaire le plus exhaustif possible de ce qu'avait fait Philippe. Voilà, et que ça nous a pris 6-8 mois.
Oui, c'est un gros travail quand même.
Voilà, peu importe, mais on est arrivé quand même à 1400 pièces, réalisations, avec des techniques différentes.
Ouais.
Et ça veut dire qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas pris en compte parce qu'on voyait bien que c'était pas abouti ou que c'était des essais. Donc il y a...
Il y avait vraiment matière.
Il y a matière.
Et donc toute l'importance qu'il y a de pouvoir les avoir rassemblés et de les donner à découvrir, justement.
Et du coup, vu qu'on espère que plein de personnes viendront voir cette exposition. Voilà, sur les 1400, à l'exposition...
C'est combien d'œuvres qui seront présentes dans l'exposition ?
250, peut-être.
Oui, ce qui est déjà...
Et dans le livre, peut-être un peu plus, mais qu'une partie.
La nuit est limpide, le temps est sans ride, dans le ciel splendide, lui le croissant dort. Orme chêne tremble, nul arbre ne tremble, au loin le bois semble un géant qui dort. Chien ni loup ne quitte sa niche ou son gîte, aucun bruit n'agite la terre au repos. Alors dans la vase ouvrant en extase, leurs yeux de topaze chantent les crapauds. Ils disent nous sommes haïs par les hommes, nous troublons leur somme de nos tristes chants. Pour nos points de fête, Dieu seul sur nos têtes sait qu'il nous fit bêtes et non point méchants. Notre peau terreuse se gonfle et se creuse, d'une bave affreuse nos flancs sont lavés. Et l'enfant qui passe loin de nous s'efface et pâle, nous chasse à coups de pavé. Des saisons entières dans les fondrières, un trou sous les pierres est notre réduit. Le serpent s'y roule près de nous en boule, quand il pleut en foule, nous sortons la nuit. Et dans les salades faisant nos gambades pesants, camarades, nous allons manger. Manger sans grimace, cloporte ou limace, ou verre qu'on ramasse dans le potager. Nous aimons la mare qu'un reflet chamarre, où dort à la mare un canot pourri. Dans l'eau qu'elle souille, sa chaîne se rouille, la verte grenouille y cherche un abri. Là la source épanche son écume blanche, un vieux saule penche au milieu des joncs. Et les libellules aux ailes de tulle font crever des bulles au nez des goujons. Quand la lune plaque comme un vernis lac sur la calme flaque des marais blafards, alors symbolique et mélancolique, notre long cantique sort des nénuphars. Orme chêne tremble, nul arbre ne tremble, au loin le bois. l'océan qui dort. La nuit est limpide, l'étang est sans rire. Dans le ciel splendide, lui le croissant dort.
Résonance sur Radio B, Entrevoir l'intérieur, Philippe Barbereau, exposition hommage. Et là, nous venons d'entendre Les Crapauds. On était en compagnie d'Alain Souchon, avec tiré d'un album À cause d'elle. Et puis, tout à l'heure, nous avons aussi entendu extrait d'un disque de Phil Delaire, enregistré en 2011 avec la Marinime, interprété par le chœur d'enfants de l'école de Saint-Exupéry, placé sous la direction de Sylvie Dor. Et c'est donc un disque Phil Delaire. Phil Delaire, où Françoise Cartade était très active aussi dans cette collection discographique. Un disque qui s'appelait donc Rose Marine, chanson de la Méditerranée. Alors, évoquant ces deux extraits musicaux, et notamment ce dernier de Phil Delaire, ça fait penser à l'enfance. Et Régis Blondel, il y avait aussi cette notion de l'enfance aussi qui vous semblait important de rappeler par rapport à Philippe.
Oui, l'enfance, c'est, pour lui, c'était quelque chose de très important avec les enfants peut-être qui vivaient autour de lui,
oui.
Ses enfants, ses propres enfants, ses petits-enfants.
Ses petits-enfants hein,
qui étaient,
également. Hein.
Qui étaient nombreux. Et puis ce monde intérieur de l'enfance, alors toujours pareil, il allait plonger dans des souvenirs réels, dans des souvenirs imaginaires, je ne sais pas. Mais tout au long de son travail, l'enfance, pour lui, a été quelque chose de très créatif, de très fondamental, je crois. Il a une phrase à la fin de son livre, ça y est, je ne l'ai plus en tête exactement.
Où il évoque cette idée-là. Oui.
Sinon l'enfance. Aïe, je ne l'ai plus exactement. Mince, bon, on va la retrouver.
On va la retrouver, pas de souci, Régis Blondel. Est-ce que, du coup, peut-être on évoquait que, du coup, il y avait l'exposition, bien sûr, on redonnera dans quelques instants des données pratiques, mais aussi comment on peut évoquer comment est construit le livre aussi, comment il se répartit. Il fait peut-être un peu appel aux différentes phases de l'exposition, du parcours, ou Bernard Nolas. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment on se présente globalement un petit peu le livre ?
Alors, ce qu'on a voulu.
C'est un grand format déjà. Hein.
Alors, bon, ce qu'on a voulu faire pour le livre, c'est que ce livre soit révélateur.
Oui.
Que ce soit le reflet, aussi ouais. Peut-être d'une grande banalité, mais du travail de Philippe. Mais on n'a pas voulu que ça soit chronologique.
C'est ça.
On n'a pas voulu que ça soit par technique.
Oui.
Donc on retrouve dans l'ensemble du livre des sujets, des techniques, des supports différents, des périodes différentes, mais tout s'entremêle.
S'entremêle.
Voilà,
tout donc, s'entremêle. Du coup, c'est un parcours à effectuer à l'intérieur.
Voilà, donc ce livre sera disponible à la vente lors de l'exposition.
C'est ça, on aura le plaisir de le découvrir à ce moment-là.
Exposition qui aura donc, on vous le redit, donc qui aura lieu
à
H2M, rue Ténière, du samedi 4 décembre, du samedi 4 au 16 décembre.
Voilà. Avec quelques temps forts aussi à certains moments également.
Alors oui, alors des temps forts, c'est peut-être toi Alain qui va en parler
Il
y en a un qui te concerne.
Effectivement, on aura le plaisir justement le 8 décembre d'intervenir dans le cadre de cette exposition avec le trio de poésie Action, c'est-à-dire avec Laura Tereda, Bartolomé Fernando et moi-même, de proposer un moment de création à partir de textes de Brigitte Barbereau et de Françoise Cartade en référence à des œuvres présentes dans cette exposition. Et donc à faire œuvre de création, de rebond, de surprise peut-être aussi également, pour garder un terme aussi présent dans le travail de Philippe Barbereau. Donc un moment où on va essayer un moment parcours musical et sonore et poétique qui sera proposé dans le cadre de cette exposition.
Et puis pendant ces 15 jours que durera l'exposition H2M, nous proposerons aussi des visites que nous appelons des visites accompagnées. Oui. Il y en aura le dimanche 5 à 15h, le lundi 6 à 18h, le samedi 11 à 15h et le lundi 13 à 18h. Voilà.
Voilà, alors bien sûr, c'est peut-être judicieux de toujours se rapprocher, soit de l'adresse mail par exemple, ou d'un contact téléphonique, parce que avec la Covid, on ne sait pas non plus les modifications qu'il peut y avoir, mais il est toujours précautionneux de peut-être reprendre contact pour savoir le nombre de personnes accueillies suivant ces journées. Et donc
il y a une adresse mail. Donc
voilà, une adresse mail.
Tout en minuscule, contact.barberot, B-A-R-B-E-R-O-T, @gmail.com.
Très bien, merci Bernard Nolas. Alors on évoquait l'enfance, Régis Blondel, et vous avez remis la main sur cette phrase justement de Philippe Barbereau.
Voilà, donc un livre sera proposé, vous l'avez compris,
oui.
Et la conclusion de ce livre, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais c'est la phrase finale qui va clore le livre, c'est « Sinon l'enfance, qu'y avait-il qu'il n'y a plus ?» Et c'est une phrase de Saint John Perse. Voilà, donc je pense que cette phrase qui a été choisie est souvent citée par Philippe.
Oui, donc voilà, on voit que là aussi, il y a une pensée en action. Voilà. Et il nous invite aussi, au travers de toute sa démarche, à justement être dans une pensée en mouvement, en réflexion. Et que, on évoquait le hasard tout à l'heure, que tout n'est pas guidé par ça. Bien sûr, il était attentif à ce qu'il pouvait voir et comment ça le faisait rebondir, mais en même temps qu'il y avait une pensée qui guide toute cette démarche. Marie-Thérèse Ballet.
Oui, simplement, je voudrais préciser le site Internet,
important,
sur lequel les informations concernant cette exposition seront diffusées. Donc le voici, Philippe, alors www, j'imagine.
Tout à fait.
philippe.barbereau.free.fr.
Voilà, c'est important. Comme ça, chers auditeurs, vous pouvez donc aller sur ce site et vous bénéficierez de toutes les informations ou précisions nécessaires.
Alors, Philippe participait également à l'organisation du Salon d'Art Poncin.
Oui,
et les informations sont diffusées également sur ce site, artponcin.com, art en étant au pluriel, artsponcin.com/, puisque c'est une rubrique de ce site.
Très bien.
Philippe-Barbereau-décembre-2021.
Super pour cette précision. Ça me fait dire aussi que l'œuvre de Philippe Barbereau circulait, c'est-à-dire était présente. On vient d'évoquer Art Poncin, mais tout au long. Donc de son parcours, elle a voyagé aussi, cette œuvre-là. Elle a rencontré d'autres publics, Régis Blondel. C'était quand même des moments fréquents dans son parcours, d'avoir des endroits possibles de monstration de son travail.
Oui, Philippe exposait dans la région, dans le département.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance de faire une exposition à peu près tous les deux ans avec lui.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Donc c'était vraiment un grand moment de...
Comment il imaginait ça, justement? Enfin, je ne sais pas si on pouvait dire, après ça dépendait bien sûr de l'exposition, le cadre, peut-être ce qui lui était demandé, mais comment ça se passait, c'est un petit peu ses choix, ses orientations à ces moments-là?
Je crois qu'il aimait montrer ce qu'il avait fait assez récemment.
Oui.
Hein. Et puis c'était toujours, ben, on va bien voir, on verra bien ce qu'on met, avec sa voix un petit peu intériorisée, voilà, tu verras, il y a un grand mur, bon, on mettra des grands tableaux, et puis là, bon, s'il y a des trous, on mettra des petits tableaux, et puis voilà, toujours ce côté un peu distant, ce qui n'empêchait pas qu'il réfléchissait très certainement, voilà, mais comme on avait un peu les mêmes visions des choses, ça se passait toujours très facilement, quoi. Ouais.
C'est ça. Et puis, on parlait d'Art Poncin, mais là, il y a eu une collaboration un peu régulière aussi avec cet espace d'exposition important, puisqu'il permet là aussi régulièrement de faire découvrir un nombre d'artistes du territoire, mais aussi bien d'ailleurs, bien évidemment.
Art Poncin, c'est un événement annuel, en dehors du Covid. et Philippe faisait partie du comité d'organisation du salon. Il a exposé plusieurs années successives et une année, il a été commissaire de l'exposition.
Donc voilà, il s'engageait aussi de manière importante dans cette manifestation.
En 2018.
Voilà, donc ça c'était
important. Il a participé à des expositions locales, telles que les journaux disent.
Oui, bien sûr, les journaux disent qui sont tout à côté.
Il a été exposé plusieurs fois à Dingdar, la galerie d'art de journaux. Mmh. Et puis en 2017 peut-être... Je crois que c'est 2017. Il a exposé également dans une galerie sur Lons-le-Saunier qui était tenue par Laurence Machard.
Voilà, donc on voit quand même une circulation, mais aussi le mérite aussi de cette exposition qui va arriver, et puis de cet ouvrage, ça va être de permettre peut-être non seulement de rassembler, mais de pouvoir encore faire découvrir davantage, peut-être d'inciter d'autres justement à aller à la découverte de ces œuvres. On évoquait la densité des œuvres, des facettes aussi. Est-ce que, du coup, il reste des pistes comme ça qu'il avait laissées, d'autres pistes? On a évoqué la peinture, les boîtes. Est-ce qu'il y avait des choses dans ce que vous avez pu, vous, redécouvrir en rassemblant, si vous dire, tiens, il y avait des pistes en mouvement, mais qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout, ou on a quand même une facette un peu dans ce que vous avez pu trouver de son travail?
Alors moi qui suis quelqu'un envahi par le doute, là j'ai envie de dire non, je crois pas. Non. Alors qu'il y ait plein de choses en suspens, sur le devenir, sur ce qui dans le bouillonnement intérieur de chez Philippe, c'est sûr. Mais alors on va dire, si on veut être un peu plus simple sur des techniques, non, je crois qu'on sait bien quels étaient ces supports.
Ces supports principaux.
Voilà, ouais. Voilà. On les connaît, donc on peut les redire. Ça tourne autour de dessin.
Voilà, c'est ça. Et peut-être, j'aimerais bien qu'on dise un tout petit peu au niveau des boîtes, de ces mécanismes, pour dire un tout petit peu plus qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pouvait être.
Dessin, peinture, collage, ouais. Et puis tout ce qui peut être plus en volume, en relief. Alors, il y a soit des assemblages type bas-relief,
oui.
Hein, donc sur un support plan, oui. Voilà, donc avec des objets de récupération, des chutes de bois, etc. Donc c'est de l'ordre du bas-relief. Et puis, ce qui me fascine un peu chez Philippe, c'est boîtes.
Voilà.
Dans des éléments mis en boîte, organisés, composés, qui peuvent être souvent très dépouillés, très minimales, un peu énigmatiques peut-être pour certains.
Oui.
D'autres où il y a plus d'éléments et qui sont lisibles peut-être plus facilement. Voilà. Et puis, ce que je trouve assez magique aussi, il y a ce que nous on appelle les mécanismes, c'est-à-dire, on pourrait presque dire que c'est des assemblages ou des peintures en mouvement.
C'est ça, oui. Voilà,
parce qu'il y a véritablement un mouvement, au dos des mécanismes qui font que des choses se déplacent et qu'elles sont sonore.
C'est ça, voilà. Je trouvais aussi intéressant qu'on évoque ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a la place du son.
Voilà.
On a parlé du geste, on a parlé de la couleur, mais quelque part aussi dans sa démarche, il y a un rapport au son. Alors, c'est peut-être pas innocent, puisque si on se rappelle bien, il a fait du piano, la musique l'a intéressé, enfin, le son a une part, oui, une présence aussi dans...
Oui, c'est sûr que dans ces mécanismes, il y a à voir, mais il y a à entendre.
Il y a à entendre. Régis Blondel.
Je crois que ce qui est intéressant dans ces mécanismes, quand on regarde ces peintures, on voit le résultat final. On ne voit pas tellement comment ça a été construit, s'il y a eu 50 couches, ou si ça a été fait spontanément.
Ouais.
Et là, ce mécanisme, c'est un peu le mécanisme de sa pensée. C'est-à-dire, on s'aperçoit que pour arriver à la petite boule qui bouge extrêmement lentement, on s'aperçoit qu'il y a un énorme engrenage dessous, et puis qu'il y a une pensée, puis il y a un contre-engrenage, puis
il y a un
contre-engrenage,
voilà.
Quelque chose qui pend, un contrepoint, etc. Et c'est finalement, tout le monde est focalisé sur cette petite plume qui est très légère. Et c'est peut-être aussi ça qui fait comprendre la manière dont Philippe agençait ses peintures et ses travaux immobiles. Quoi.
Oui, et je reviens encore en repensant à certaines de ses réalisations, justement au niveau du son. On n'est pas non plus dans des choses démesurées du son. On est dans une finesse. On a évoqué beaucoup la simplicité tout à l'heure. Et j'utiliserais bien aussi ce mot-là. On n'est pas dans la démonstration sonore pour la démonstration sonore, mais on est dans une finesse du rapport. On est dans quelque chose de très ténu, ou voire même il faut pousser son oreille, prêter l'oreille, avoir l'attention à...
un des chapitres du livre s'appelle « Densité, légèreté ».
Ah oui.
Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important chez Philippe. Il aime le côté solide, le côté massif, oui, le côté oui. lourd peut-être, le côté pesant des choses. Mmh. Il aime les assembler, des bois sommairement sculptés. Mais tout ça arrive toujours à une sorte de contrepoint. Et c'est ce petit contrepoint qui est axé toujours dans la finesse.
Oui, c'est ça. Je crois que le mot finesse ressemble
au raffinement, légèreté, délicatesse, mais tout ça en contrepoint d'un côté, on va dire, peut-être terrien, ancré dans quelque chose de solide et de fort, peut-être.
Voilà. Oui. Oui, Bernard Nolas.
Et ça correspond à Philippe. Il y a un côté présence, rassurance.
C'est
rassurance,
vrai. Hein, oui, tout voilà, à fait.
Hein, voilà.
L'homme était là.
Assis, je parlais un peu lentement. Voilà. Donc une présence rassurante, ce qui n'est pas incompatible avec une fantaisie.
Oui.
Voilà, il y a des petites contradictions qui ne le sont pas pour moi. Enfin, c'est des complémentarités.
C'est des facettes multiples que l'on découvre aussi au travers de ça. Donc voilà toute une richesse finalement. En tout cas, on pense aussi que au travers de cette émission, on donnera des envies aussi d'aller peut-être plus loin, voire pour certains et certaines de découvrir, parce que peut-être ils n'auront pas encore eu l'occasion de croiser le chemin de l'œuvre de Philippe Barbereau. Peut-être justement pour rester en musique et rester dans les éléments aussi qui ont pu traverser. Je le disais tout à l'heure, il était pianiste, il s'intéressait aussi à la musique classique, il avait de belles sur le champ musical des ouvertures. Et je vous propose d'entendre un extrait du Te Deum de Charpentier. Résonance sur Radio B, Entrevoir l'intérieur, Philippe Barbereau, exposition Hommage. Et là, nous venons d'entendre donc un extrait du Te Deum de Charpentier, ce magnifique Te Deum de Charpentier, interprété par Les Arts Florissants sur la direction de William Christie. Et plus particulièrement, nous avons entendu Aeterna Facum Sanctis Tuis pour soli, chœur et orchestre. Donc un petit extrait, rappelant simplement aussi l'importance et la place de la musique dans l'œuvre aussi de Philippe Barbereau. Donc nous arrivons petit à petit au terme de cette émission rencontre où on s'est glissé dans les pas à la fois de l'homme, de l'artiste, de l'ami, du proche. Résonance sera diffusée mardi prochain. Vous pourrez ensuite podcaster cette donc présente émission en vous rendant sur le site de Résonance Contemporaine www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio P www.radio-b.fr. Merci de nous avoir suivis au cours de cette émission. Bonne suite avec Radio B et à très vite. Mm-hmm.